Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement a interdit toutes les manifestations pro et anti-Ronsar Malonda prévues ce jeudi à Kinshasa et dans quelques villes de la RDC. Cette décision a été prise hier à l'issue d'une réunion convoquée par les premiers ministres. Le gouvernement avance comme raison l'état d'urgence sanitaire proclamé depuis mars dernier par le chef de l'État. Malgré cette interdiction, certaines formations politiques et organisations de la société civile ont maintenu leur marche. Comment analyser cette décision du gouvernement et que faire pour exprimer ses revendications politiques pendant l'état d'urgence? C'est l'objet de ce débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Maître Ferdinand Kambere, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC. Maître Ferdinand Kambere, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Guy.
Professeur Jeff Mudimbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Et on me dit que le professeur Jean-Claude Chulumbay, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH, est là. Bonsoir, professeur Jean-Claude Chulumbay.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Toutes les manifestations pro et anti-Ronsar Malonda prévues ce jeudi à Kinshasa et dans quelques villes de la RDC sont interdites. La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion convoquée hier par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la décentralisation et les responsables des services de sécurité ont participé à cette rencontre. Le régime de l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État depuis mars dernier et prorogé à 6 reprises ne permet pas d'organiser des rassemblements publics, rappellent les autorités conviées à cette réunion. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur qui a lu la déclaration finale de cette rencontre. Un extrait est choisi par Billy Ivan Lutumba.
En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que des mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes CASH et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgentement des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divisent. 4. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant toute cette période d'urgence sanitaire.
Les manifestations interdites visent aussi à rejeter les propositions des lois Minako et Sakata sur la réforme de la justice. Les manifestations des militants de l'UDPS et d'autres associations ont été organisées ce jeudi dans la ville de Kinshasa. Les manifestants sont arrivés devant l'esplanade du Palais du Peuple. Ils protestaient contre l'entérinement de Ronsar Malonda par l'Assemblée nationale comme futur président de la CENI. Paul Matendo était sur place, on l'écoute.
Des centaines de manifestants sont partis tôt ce matin des différents coins de la ville de Kinshasa, destination Palais du Peuple. Le premier groupe qui provenait d'Elimité scandait des chansons hostiles à l'endroit de l'ancien régime. Ce groupe a été dispersé par la police à coups de gaz lacrymogène. Un deuxième groupe composé essentiellement de motards a réussi à atteindre les portes du Palais du Peuple. Ici, au croisement du boulevard Triomphal et l'avenue des Tuileries, un dispositif impressionnant de la police a érigé des barrières. Après confrontation entre la police et les manifestants, la police a fait une fois de plus usage des gaz lacrymogènes pour les disperser. Quelques minutes plus tard, la situation dégénère quand les manifestants utilisent des cocktails Molotov et des jets de pierre. Certains d'entre eux interrogés disent qu'ils refusent tout simplement l'entérinement de Ronsar Malonda par l'Assemblée nationale comme président de la Commission électorale nationale indépendante. La police, commandée par le général Silvano Kasongo, même sur le terrain, a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. Pas de blessés, seulement quelques interpellations et quelques motos confisquées par la police. De l'esplanade du Palais du Peuple, Paul Matendo, Radio 4.
Merci beaucoup à vous, Paul Matendo. Les militants de l'UDPS et de certains autres partis politiques sont descendus dans la rue ce jeudi à Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa. Ils ont répondu au mot d'ordre de leurs dirigeants. Ils dénoncent l'enterrement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Pour le président fédéral de l'UDPS et Lubumbashi, la décision des autorités centrales interdisant les marches est tombée tardivement. Il était donc impossible de démobiliser tous les militants pour la manifestation de ce jour. Et professeur Jean-Claude Chilumbay, vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. D'abord, est-ce que vous comprenez cette décision du gouvernement portant interdiction de toutes les manifestations prévues à partir de ce jeudi en raison de l'état d'urgence sanitaire?
Je comprends la décision, c'est vrai, parce que c'est une décision qui vient compléter une ordonnance qui a été coulé en une loi, notamment par la prorogation de l'état d'urgence, compte tenu de la situation difficile qui est la nôtre en cette période, celle de la pandémie. Il est tout à fait normal que par prévention que le gouvernement de la République ait réfléchi de cette manière-là. En même temps, je déplore que cette décision ait pris beaucoup de temps à tomber, de sorte que avec la circonstance ou la situation qui est la nôtre actuellement, que tout le monde n'ait pas eu accès à l'information, ça n'a pas permis aux autorités respectives des partis politiques de pouvoir démobiliser alors que les gens étaient déjà suffisamment engagés pour cette manifestation. Et il va falloir que dans l'avenir, que les précautions de cette nature soient prises un peu avant pour que les autorités des partis politiques s'y conforment.
Oui, professeur Jean-Claude Chilumbay, donc vous voulez dire que si l'UDPS, votre parti politique, est passé outre cette interdiction du gouvernement, c'est tout simplement parce que la décision du gouvernement est tombée tard dans la nuit?
Bon, il y a ça comme difficulté au plan technique, au plan juridique. Vous avez suivi que dans la plupart des cas, il y a des rappels, notamment sur ce régime d'information qui fait plutôt obligation à l'autorité d'encadrer des manifestants. Ça pose problème. C'est même là que ça nécessite, parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, moi je suis en train de noter un fait, ceux qui réclament, ils réclament quelque chose de fondamental, parce que l'explication ne leur avait pas donné de manière claire dans les procédures qui ont conduit à la désignation du président de la CENI, et pour cela d'ailleurs je suis en train de voir que soit engagée la responsabilité morale de père spirituel, de confession religieuse, ceux qui ont voulu que ce processus soit aussi opaque, qu'il vienne être porté à la connaissance de notre population dans des conditions où il n'était plus possible de devoir gérer les casses, ça a été absolument intolérable. Donc maintenant il va devoir falloir faire avec, tenter de voir, surtout au niveau de la coalition, de notre coalition FCC-CASH, comment l'on peut envisager désormais des concertations permanentes sur des questions essentielles, parce que il n'y a pas de majorité dans la majorité. Lorsqu'on dit majorité parlementaire, elle suppose le CASH, elle suppose le FCC. Et malheureusement, il y a cette petite tendance chez nos partenaires du FCC à tenter de montrer qu'il y avait une majorité dans la majorité. Les questions des hautes portées politiques et de l'importance aussi capitale pour la conduite de la nation sont parfois boutiquées et soumises comme ça de manière subreptice à l'appréciation de la plénière qui vote et ça passe comme cela sans qu'un consensus se soit dégagé d'abord à l'intérieur de la coalition. Il faudra aussi que l'on voit dans quelle mesure on devrait avoir un cadre de concertation permanent entre le FCC et le CASH pour que toutes ces questions d'importance capitale soient préalablement discutées dans la coalition avant d'être formalisées au sein de l'Assemblée.
Oui, vous êtes membre d'une même coalition, la coalition au pouvoir. Vous choisissez la rue pour vous exprimer. Et là, vous recommandez, n'est-ce pas, qu'on mette en place un cadre de concertation entre les alliés de cette coalition. Et donc, vous voulez dire que après une année d'existence de cette coalition, il n'y a jamais eu de cadre de concertation?
Vous savez que personne ne trouve du plaisir dans la rue. Hein. Je ne crois pas que nous, UDPS, nous soyons contents que notre peuple soit dans la rue pendant que nous serions concentrés en train de travailler. Et que cette rue perpétuelle ou permanente donne parfois à penser, même à des partenaires externes qui ont besoin de venir investir dans ce pays, ça donne à penser qu'il y a de l'incertitude dans le pays. Nous ne nous réjouissons pas de ça. On n'est pas content de voir tout le temps la jeunesse qui devait se concentrer sur des questions importantes de son avenir et de l'avenir de la République.
Merci,
être en train d'être revendiqué, réclamé les choses qui pouvaient plutôt être décantées sur base de la simple compréhension dans une collaboration sincère.
Merci.
Nous ne nous réjouissons pas de ça.
Merci. Merci, professeur. Nous allons vous redonner la parole. Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC. Et comment vous analysez cette décision du gouvernement interdisant ces manifestations aujourd'hui pour des raisons sanitaires?
Non, c'est malheureux que le parti du président de la République, vous voyez que même de là où je suis, ça continue à tirer, qu'il soit le premier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, après le communiqué du gouverneur qui interdisait pour les mêmes raisons que les partis politiques qui ont sollicité, parce que nous étions parmi ceux qui ont sollicité pour soutenir la République, pour soutenir les acquis de l'alternance démocratique et pacifique et civilisée, comme on le disait. Et que donc le gouverneur avait déjà répondu, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami l'honorable
Kouboubaï,
quand il dit que la décision est tombée la nuit. Non, la décision du gouverneur d'abord a répondu à chacun des partis politiques ou chacune des associations qui avaient sollicité. C'était bien avant. Nous avions eu l'invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert. Nous sommes arrivés, je crois que nous étions les seuls partis PPRD, et moi j'ai été délégué par mon chef, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani, accompagné par les sénateurs Moussengezi. Et lorsque nous sommes arrivés, nous étions étonnés d'être peut-être les seuls partis qui a répondu à cette invitation du VPM. Et alors que l'IDPS qui revendiquait ces manifestations depuis longtemps, ils ne sont pas venus. Ça veut dire qu'ils avaient déjà un plan monté. Je ne suis pas d'accord avec le professeur. J'ai l'impression qu'il est même déphasé par rapport à ce que tient le secrétaire général de l'IDPS, Kaboun, comme discours contre les institutions. Que ce qu'il tient, lui, quand il tient un discours, je vois bien qu'il fait porter la responsabilité aux professions religieuses. Je suis d'accord avec lui. Mais les drapeaux qui sont dans la rue, ce ne sont pas des gens qui ont manifesté spontanément. C'est une population simplement ignorante qu'on a manipulée et qu'on a instrumentalisée simplement contre l'institution parlement, contre l'honorable Jeanine Mabunda. Et nous nous demandons pourquoi c'est ça. Le prétexte, c'est de dire que les cadres de concertation, peut-être qu'ils existent parce qu'il y a un accord pour la coalition, des suivis de l'accord qui existe, ou des suivis de la mise en application de l'accord. Ce cadre existe. S'il a besoin d'être renforcé, faut-il dire aujourd'hui à cette population qui a manifesté, à nous qui connaissons des pertes, des faits, des gens plutôt sensés, mais qui adresse, d'abord il trompe l'opinion que c'est une manifestation pacifique, qui veut respecter les gestes barrières, mais la foule qu'on voit là bien enragée et dressée contre certains sites privés et publics, est-ce que là il y avait vraiment des respects?
Oui,
on a même vu le secrétaire Kabuya lui-même passer avec cette foule, bien sûr encadré aussi par la police, c'est ce qui nous étonne. Bon, si la police est là pour encadrer, mais pour qu'on casse chez les privés, on casse chez les adversaires, et non, c'est quand même aberrant.
Maître Ferdinand Cambéré, vous avez suivi le professeur Chulumbay qui semble comprendre l'attitude des manifestants du fait que vous, les alliés, donc le FCC allié au cash au sein de cette coalition au pouvoir, vous ne semblez pas être sincère vis-à-vis de vos partenaires des cash. Vous permettez, n'est-ce pas, d'entreprendre des actions à l'insu de vos alliés et vous leur imposez, n'est-ce pas, votre logique parce que vous estimez que vous avez une majorité au sein de la majorité. Ils pensent qu'il n'y a pas eu d'explication claire au sujet, n'est-ce pas, de cet enterrement de M. Malonda comme futur président de la CENI.
Je crois, Matt, encore une fois, c'est un discours ambigu de l'IDPS qui fait de l'IDPS justement un parti peut-être hypocrite comme les autres l'ont dit. La discussion de changement du bureau de la CENI, c'est juste après les élections que cela a commencé. Les confessions religieuses, il a bien cité le professeur Sylvain Lumu, qui lui était aussi candidat, mais qui a vu sa candidature être retirée, comme deux autres, je crois Jérôme Bosso et un autre Denis, qui ont vu leur candidature être retirée simplement sur le fait, alors que peut-être ce n'était pas dans les critères qu'ils ont établis au préalable, simplement parce qu'ils étaient de la même province que le président de la République. Nous tous, nous avons suivi, parce que et lui et nous, nous avons tous suivi ce qui s'était déroulé entre les confessions religieuses, se sont fait confiance, ils ont établi un critère, hein, le profil de celui qui devait remplacer l'actuel président de CENI. Et ce poste-là n'est pas un poste des partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ils demandent comme explication pour ça? Donc, NUFCC et IDPS, nous n'étions pas ça. C'est suivre le processus qui était en train d'être conduit par, du reste, le cardinal et l'abbé Ambongo. Hein, l'abbé Chollet, plutôt l'abbé Chollet. Alors, comment aujourd'hui c'est devenu l'affaire du FCC?
Et donc,
l'IDPS reproche au FCC de lui avoir caché quoi que ce soit alors qu'on n'était pas concerné du début jusqu'à la fin.
Et donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont convaincus que à travers cet enterrement par l'Assemblée nationale des PV des confessions religieuses désignant Malonda comme futur président de la CENI, c'est le FCC, n'est-ce pas, qui cherche à revenir au pouvoir. Vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse-là?
Non, on n'est pas d'accord, Guy Maté. Parce que le même discours nous a été tenu lorsque c'était Nanga qui remplaçait M. l'abbé Dérèse Mémoire, l'ancien président, lorsque finalement il décède et qu'il fallait remplacer le bureau. Nanga est placé. Nanga a été aussi diabolisé qu'il était en train de préparer de faire passer un candidat du FCC. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir et pourtant c'est toujours Nanga. Comment, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la CENI, beaucoup de réformes à amener par les nouveaux bureaux qui sera là, aujourd'hui déjà il faut dire que celui qui vient, c'est pour tel candidat. Nous ne connaissons même pas encore de candidats, on n'en parle même pas, nous ne sommes même pas encore à ce débat-là. Et aujourd'hui, pour l'IDPS, le FCC prépare, Malonda je crois, pour tricher à faveur du FCC. Je crois que c'est ça justement le manque d'honnêteté intellectuelle. La CENI Guimaté, ceux qui sont en train de tromper la population comme l'IDPS le fait là-bas. La CENI, c'est une organisation électorale nationale indépendante. Et dans la modification de 2013, cette indépendance-là, on l'a voulu d'abord, rien que dans la composition, y mettre le principe de mixité dans la composition. Ça veut dire qu'il y aura 6 membres qui viennent de la majorité. Il a bien dit que quand on parle de la majorité, c'est FCC cash pour le moment, même si maintenant ils sont en train de démontrer à la face du monde qu'ils n'y croient pas. Nous suivons le discours d'Augustin Kabuya. Et puis, il y a 4 postes pour l'opposition politique. C'est ça qui est dans la loi. Et il y a 3 postes...
Maître Ferdinand Cambéré,
Il y a trois postes de la société civile.
Voilà, vous avez bien fait des
postes de président national.
Vous avez bien fait de rappeler tout ça, mais les manifestations d'aujourd'hui ne visaient pas seulement à dénoncer, n'est-ce pas, l'intérimement de l'Assemblée nationale du PV des constitutions religieuses. Et on dit aussi qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de dénoncer les trois propositions des lois de Obem Inaku et de monsieur Gary Sakata sur la réforme de la justice.
Non, ça veut dire que comme je l'ai dit, c'est des prétextes qu'on est en train simplement d'utiliser, que ce soit les propositions de loi de Minaku, que ce soit l'entérinement, parce que le Parlement n'ajoute même pas un seul virgule sur ce que décide la sous-composante de la société civile qui doit donner le président national de la CENI. C'est des prétextes qu'ils sont en train d'utiliser. La
Merci.
Vérité est que depuis le départ de Kaboul, l'objectif, c'est de paralyser ce Parlement pour qu'il ne fonctionne plus.
Et donc, et ça, vous pensez que tout cela,
des institutions,
tout cela constitue des simples prétextes et ce ne sont pas des raisons valables. Hein.
Parce que, regardez, rien que les remaniements en France, les ministres de la Justice qui viennent, le premier objectif de ces ministres, c'est d'assurer les réformes.
Merci.
Au niveau du système judiciaire.
Merci.
Et
merci,
qu'il a bien dit, lui aussi, par exemple, que l'indépendance de la magistrature, on sait de quel pouvoir on parle, mais la collaboration du ministre de la Justice et les parquets ou les procureurs généraux,
merci, nous allons...
on cherche à établir.
On va y revenir, maître. On va y revenir.
Okay, c'est bon.
On va y revenir. Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Comment vous analysez la décision du gouvernement interdisant des manifestations en évoquant des mesures barrières qui doivent être observées pendant cet état d'urgence sanitaire?
Bien, merci beaucoup, Monsieur Guimaté, pour la question que vous venez d'imposer. Avant d'y arriver, je voudrais faire remarquer que tous les spectacles nauséabonds, permettez-moi l'expression, auxquels nous sommes en train d'assister, tirent son origine essentiellement dans la composition ou dans la nature même de la coalition FCC-CACH. En effet, cette coalition-là, elle a été conçue essentiellement dans le souci d'obtenir la majorité absolue au Parlement ou à l'Assemblée nationale, majorité absolue à partir de laquelle le gouvernement devait être formé au regard du régime politique qui est le nôtre. Mais le problème qui se pose, c'est que en dehors de la constitution de la majorité absolue sur laquelle se fonde la coalition FCC-CACH, les deux composantes n'ont pas réussi à mettre sur pied un programme gouvernemental commun de la coalition. Et j'insiste beaucoup sur ça, pas de programme gouvernemental commun de la coalition. Alors, la conséquence est laquelle? C'est que les deux composantes, FCC et CACH, dans la gouvernance politique, chacun y va avec son programme. Il peut arriver que le programme de l'un comme de l'autre ne soit pas compatible. Alors, à ce moment-là, si c'est le programme de CACH qui est incompatible à celui du FCC, le FCC s'y oppose et vice-versa. C'est pourquoi les deux composantes FCC-CACH, tout en étant au pouvoir, elles sont également dans l'opposition par rapport au programme gouvernemental qui est donné en train de mener. Alors, il faudrait que les deux composantes ici se mettent d'accord sur un programme gouvernemental commun qu'il faudrait observer dans les deux sens.
Alors, comment ça peut se faire, professeur Jeff Mudimbi, dès lors que, apparemment, les cadres que les deux alliés trouvent pour s'exprimer, c'est toujours la rue. Il n'y a pas de cadre de concertation entre alliés au sein de cette coalition. Il n'existe pas de cadre de concertation.
Oui, c'est vrai. L'absence de cadre de concertation entre les deux, c'est justifié effectivement par l'absence d'un programme gouvernemental commun. Si ce programme pouvait exister, je pense qu'on créerait aussi ce cadre de concertation. En l'absence de tout cela, nous sommes en train d'assister maintenant à un spectacle qui n'honore pas le pays après 60 ans d'indépendance.
Vous êtes politologue, professeur Jeff Mudimbi, vous êtes politologue. Et comment une coalition peut avoir des ambitions de gérer les pays de manière à apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société sans avoir au préalable mis en place un programme commun du gouvernement? Comment vous expliquez cela?
Oui, j'explique d'abord par la qualité de tous ceux qui nous gouvernent. Vous savez que notre pays, ici, insiste beaucoup plus sur le critère de nationalité et d'expérience pour accéder au pouvoir. Le critère lié au niveau d'études est relégué au second plan. Donc je peux m'assumer en affirmant sans ambages que la qualité de nos gouvernants pose un sérieux problème. Alors, le souci majeur, c'est seulement le partage des postes ministériels. Voilà, faisons la coalition, réalisons la majorité absolue à partir de laquelle le gouvernement sera constitué. Nous prendrons telle part, nous prendrons tel ministère et vous prendrez tel autre. Et tout s'est arrêté à ce niveau-là. On a oublié que l'essentiel à faire, c'était de regarder tous dans la même direction en mettant sur pied un programme gouvernemental commun que toutes les composantes devaient observer. Donc, cela peut aussi être expliqué. J'insiste beaucoup plus ici sur la qualité de nos gouvernants.
Voilà, le gouvernement interdit ces différentes manifestations qui étaient prévues en évoquant les raisons sanitaires. Mais les manifestants, certains manifestants, n'est-ce pas, ont bravé cette décision du gouvernement en maintenant leur marche. Est-ce que vous comprenez l'attitude de ces manifestants? Vous avez suivi le professeur Tulumbay qui semble comprendre l'attitude de ces manifestants, oui. En évoquant, n'est-ce pas, les manques de sincérité de leurs alliés du FCC.
Moi, je comprends une chose, mais je vais orienter mon débat autrement. Je constate seulement que les mesures qui ont été prises par le gouvernement n'ont pas été respectées. Alors, je me pose la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer l'inexécution des mesures prises par le gouvernement de l'État? Donc, d'emblée, on peut dire qu'il s'agit d'abord d'une faiblesse de l'État congolais, mais fondamentalement, nous pouvons dire que les décisions ou les mesures qui ont été prises n'ont pas vraiment reflété les aspirations et les besoins de la population. C'est pour autant dire qu'il n'y a pas eu consentement entre les gouvernants et les gouvernés. Ce qui fait que les mesures qui ont été prises, les gouvernés ou une partie des gouvernés n'a pas pu digérer, n'a pas pu consentir de les obéir. Donc il faudrait que quand les décideurs prennent des décisions, qu'ils fassent un effort pour que les gens sur qui cette décision doit s'appliquer trouvent le bien fondé de ces mesures. Et par ailleurs, il y a aussi les conditions sociales. Le temps que nous avons observé de confinement, bientôt, c'est déjà 4 mois, ce temps-là a fait que les Congolais vivent à la limite des animaux. Alors, à partir du moment où les conditions sociales ne sont pas bonnes, il est très difficile que la population obéissent.
Merci, professeur.
Aux mesures qui sont prises par les gouvernants.
Merci, nous allons redonner la parole.
Et par ailleurs, il faut aussi remarquer que les organes qui sont chargés même d'exécuter les mesures des gouvernants, est-ce que ces organes-là sont-ils bien équipés? Les agents, même les militaires qui doivent observer toutes ces mesures, est-ce qu'ils sont vraiment motivés?
Merci. Nous allons vous donner la parole. Professeur Jean-Claude Tulumbay, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud Kivu.
C'est Gilbert Valivudouye de Bukavu au sud Kivu. Cette situation, tout en la condamnant avec la dernière énergie, renforce dans l'esprit de certains, et ce qui est clair, le pouvoir est dans la rue. Sinon, rien n'explique qu'un parti au pouvoir puisse être dans la rue, soi-disant réclamer un droit acquis. L'amateurisme et confusion, les partis n'étaient prêts pour diriger. Il est incapable d'assumer ses responsabilités et reste sans boussole presque déjà. Cette situation du gouvernement est à encourager, bien qu'elle ait resté sélective. Sinon, il est incompréhensible que certains soient contraints de ne pas quitter leur toit pour raison d'état d'urgence sanitaire, pendant que les autres manifestent librement et avec casse pour les intérêts égoïstes. Curieusement, le gouvernement n'a jamais montré comment on réclame son droit en pareil état d'urgence. La démocratie, si, est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, que celui-ci se prenne donc en charge.
Oui, professeur Jean-Claude Tshilumbaï, votre réaction par rapport à cette réflexion, à ce point de vue de l'auditeur de Bukavu.
Non, le pouvoir n'est pas dans la rue. Hein, il faut dire que nous avons une compréhension parfois erronée des faits. Lorsque l'on est dans un pays, ça donne à penser que chaque fois on reprend, l'UDP c'est dans la rue, l'UDP c'est au pouvoir. Non, ça ne signifie pas pour l'UDP que le fait d'être dans la rue, que l'on oublie autre chose, toute autre chose, comme les aspirations profondes de cette population. Nous pouvons bien nous dresser, y compris contre nos propres dirigeants, si nous estimons que c'est de leur fait, les réponses adéquates ne sont pas données à ces aspirations-là. Et il faut noter en fait, c'est même de là qu'est parti le collègue Ngimbi, je n'ai pas bien retenu le nom, qui parle de Lubumbashi, lorsqu'il soulève toutes
Jeff
ces questions
Moudimbi, professeur Jeff Moudimbi.
D'absence de programme, d'absence de qualité d'homme au pouvoir, ne dirait pas quand même que ces ministres, ce premier ministre, ce ne sont pas des gens des qualités qui sont au pouvoir. Mais les crises qu'ils notent en même temps, c'est des crises auxquelles on devait s'attendre. Le Covid n'a laissé aucun pays tranquille. Tous ces pays-là, même les plus stables, traversent ces crises. Mais ce que je voulais plus dire par rapport à tous ces débats, c'est je reviens un peu au propos du SP, Ferdinand. Lorsqu'il parle de réformes que nous avions convenu d'entreprendre, en effet, nous ne sommes pas opposés aux réformes. Nous disons seulement qu'en même temps qu'on a convenu que l'on procède par des réformes de la CENI, l'Assemblée nationale au sein de laquelle nous sommes majoritaires et que le président ou la présidente, le bureau de cette Assemblée dans sa large majorité, il est nôtre. Lorsque cette question de la mise en place des dirigeants de la CENI, avant les réformes convenues qui peuvent même toucher à la loi sur la CENI, éventuellement mettre fin à ce leadership de confessions religieuses qui ont démontré qu'elles n'étaient pas capables d'assumer cette responsabilité, les réformes qui peuvent peut-être conduire à ce que l'on dise, écoutez, cette fois-ci, au lieu de gaspiller éternellement de l'argent pour des contestations à la fin de chaque cycle électoral, on peut remettre cette responsabilité à l'administration publique, patronnée notamment par le ministre de l'Intérieur. Avant toutes ces réformes, le partenaire n'a pas posé la question s'il était nécessaire d'amorcer le virage et la baie. Le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Chollet, l'a dit après ce qu'ils estiment être l'échec, il dit qu'ils avaient mis la charrue avant.
Oui, oui, professeur Tshilumbaï. Professeur Tshilumbaï, au-delà de tout ce que vous dites, vous ne pensez pas que le fait d'avoir compris les gens qui ont bravé l'interdiction du gouvernement aujourd'hui, le fait d'avoir compris, c'est comme si vous encouragez, n'est-ce pas, les gens à pouvoir passer outre les mesures barrières, et vous en connaissez les conséquences, hein. Vous savez, si demain il y a des cas de contamination, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire que c'est l'IDPS qui a autorisé, n'est-ce pas, ses partisans à aller manifester sans tenir compte de l'état d'urgence dans lequel on est.
J'ai dit bien, Guy, je ne suis pas d'accord que les décisions du chef de l'État soient ainsi ignorées. Je ne partage pas ce point de vue. Je connais les conséquences de cette obstruction qui peut nous relancer dans une crise aiguë de la pandémie. Je ne comprends pas ça de cette manière que vous voulez plutôt présenter.
Merci.
J'ai dit tout simplement que ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons maintenant des responsabilités devant nous.
Okay.
D'abord, l'Église qui venait de comprendre qu'elle a commis l'erreur de s'engager dans ce processus avant des réformes utiles et auquel l'ESP fait allusion, que nous avions convenu d'amorcer ensemble, il fallait les faire parce
merci
que les réformes signifient
merci.
Que les lois pouvaient éventuellement changer et que ça ne serait pas les confessions religieuses qui allaient jouer ce rôle. Donc,
merci pour ça, on a compris. Maître Ferdinand Cambéré, vous allez aussi réagir à ces points de vue de cet auditeur qui appelle depuis Kananga, au Kasaï Central.
C'est Émile Chituka, dans la province du Kasaï Central, ville de Kananga. Cette décision du gouvernement interdisant la marche dans notre pays constitue de l'acharnement politique du camp du FCC contre l'IDPS, la Mouka et d'autres mouvements citoyens qui luttent pour un réel changement dans notre pays, car en espèce de la marche anti-Malonga. Le pays aujourd'hui est pris en otage par une coalition suite à une majorité préfabriquée par l'équipe de M. Nanga que nous ne voulons pas voir à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Nous avons vu au courant de cette même semaine le cadre du FCC se réunir partout dans le pays sans respect des mesures barrières. Exemple, marche de lutte contre le tribalisme dans la province du Haut-Katanga. Donc là, le gouvernement congolais ne savait pas qu'il y a eu Covid-19. L'unique moyen le plus pacifique pour résoudre ces problèmes, c'est la mise en place d'un dialogue incluant les confessions religieuses, la coalition au pouvoir FCC-CACH, la Mouka et la société civile.
Oui, Maître Ferdinand Cambéré, c'est comme si vous avez déjà réagi à ça. Hein. Vous avez dit, vous estimez que tout ce qui est dit là, c'est des simples prétextes. Il n'y a pas de raison valable. Maintenant, la question qui nous intéresse maintenant, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour exprimer ces revendications politiques pendant l'état d'urgence? C'est vrai que nous sommes dans un état d'urgence, mais il peut y avoir que les gens ont des revendications à exprimer et qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire pendant l'état d'urgence, vous en tant que juriste?
Voilà. Donc, à mon frère Chituka de Kasaï ou Kananga, je crois que vous avez vous-même compris, dit Maté, qu'il n'a pas le même discours que le professeur Chilumbay, qui est pourtant aussi de là et qui est de l'IDPS. Parce que aller dire qu'il y a... interdire la marche, c'est violer l'article 26. Il oublie qu'il y a d'abord l'article 144, où il n'est autorisé à personne pendant cet état d'urgence, et c'est le chef de l'État qui a sollicité cet état d'urgence, qui a décrété l'état d'urgence. Si maintenant son parti ne sait pas comprendre ça, c'est ça que l'homme de Bukavu dit aussi, M. Gilbert, que je salue. L'IDPS qui est à la tête du pays et que, comme je l'ai dit avant, en application de l'article 69, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toutes les manœuvres pour permettre à ce que les institutions fonctionnent.
Voilà.
J'attends ici que tout le monde parle du dialogue, parce que c'est ça maintenant votre question. Lui, Émile, là, il dit, bon, maintenant, il faut appeler les gens au dialogue. Mais quelle sorte de dialogue? Alors que le président est élu, et nous avons toujours soutenu cela. J'entends le professeur, mon ami Chilumbay, parler d'un cadre formel, des concertations habituelles. Mais, Guy Maté, vous allez vous rappeler que dernièrement, le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle au sommet de l'État.
Maître Ferdinand,
l'ancien chef du président
a
ce mécanisme alors que les gens prétendent qu'il avait tous les pouvoirs.
Maître Ferdinand.
Mais maintenant que lui, il considère que la majorité au Parlement, il y a 7 FCC.
Maître Ferdinand.
Les chefs de corps de chaque.
Maître Ferdinand.
Pourquoi ce cadre-là ne fonctionne pas alors que c'est le chef de l'État qui doit faire fonctionner ça?
Maître Ferdinand. Maître Ferdinand, nous sommes dans un contexte particulier, hein, c'est l'état d'urgence, et la préoccupation, c'est celle de savoir comment, lorsque les gens ont des revendications à exprimer, et à faire, comment ils doivent procéder pendant l'état d'urgence.
Oui, pendant l'état d'urgence, vous savez, les mesures d'abord sont prises, les libertés individuelles et collectives sont restreintes, tout ça c'est dans la loi, c'est dans la Constitution. Il y a maintenant des mécanismes de revendications. Ils peuvent toujours adresser il y a des élus qui, le Parlement a continué à fonctionner. Et l'IDPS a aussi des élus dedans. Il n'est vraiment pas aujourd'hui justifié que l'IDPS continue à appeler la rue.
Merci.
Et que pour vouloir obtenir un gain politique, il faut
Merci, merci, professeur Moudimbi. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Bukavu Sud Kivu.
Magené Kakumbu, Jules, activiste du mouvement citoyen Rien sans le peuple à Bukavu. Le gouvernement congolais a raison d'interdire tout regroupement de plus de 20 personnes à cette période d'état d'urgence sanitaire. Cependant, la population a une confusion totale, car l'état d'urgence est garanti par la constitution congolaise et il doit être respecté. Les manifestations sont garanties aussi par la même constitution. Toutes ces lois doivent être respectées. Je pense que le gouvernement congolais ne doit pas laisser passer tous les mots des politiciens sous prétexte que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Les Congolais sont inébranlables.
Oui, professeur, les manifestations sont garanties par la Constitution, mais nous sommes dans un contexte particulier, l'état d'urgence. Comment les gens doivent, n'est-ce pas, procéder quand ils ont des choses à dire, à réclamer pendant cette période d'état d'urgence?
Merci beaucoup. Je pense que le gouvernement, quand je parle de gouvernement, je vois ici bien les membres du gouvernement et même de l'Assemblée. Les deux là doivent permettre qu'il y ait des canaux de communication à travers lesquels la population ou une partie de la population peut s'exprimer. Alors, en l'absence des canaux de communication entre le gouvernant et le gouverné, cette situation-là peut amener le gouverné à recourir aux moyens violents auxquels nous sommes en train d'assister maintenant. Mais si ces canaux de communication-là existent, à mon niveau, je pense que la population ne peut pas recourir aux moyens violents. Par ailleurs, il faudrait aussi que les gouvernants manifestent une certaine sensibilité par rapport aux problèmes qui leur sont posés par le gouverné. Mais si le gouverné estime que lorsqu'ils posent leurs problèmes de manière pacifique, les gouvernants font la sourde oreille, alors un des mécanismes pour aussi se faire entendre, c'est de recourir aux moyens violents que nous sommes en train de décourager.
Merci, professeur. Je considère ça comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Professeur Jean-Claude Tshilumbay, votre conclusion?
Nous devions savoir reculer. C'est le peuple qui nous a élus. La majorité que nous sommes, c'est cette population qui l'a constituée. Nous ne sommes pas le premier modèle au monde à devoir tenir compte des interventions spontanées de ce peuple face aux dérives des dirigeants aussi démocratiques qu'ils soient. Je crois que lorsqu'il y aura de telles revendications, il est de bon aloi que l'on s'asseye, que l'on examine et l'on apprécie, qu'on dise si on peut aller dans le sens de ce qu'il revendique de manière spontanée.
Merci. Maître Ferdinand Kamere, votre conclusion?
Oui, ma conclusion, c'est qu'il n'y avait pas de revendication de la population ici, ni de manifestations spontanées. C'est des partis politiques qui ont instrumentalisé les jeunes. On a vu des drapeaux ici, des motards, ainsi de suite. On avait bien vu que c'est des partis politiques, pourtant qui ont des représentants dans les institutions, que ce soit d'abord à la présidence, au gouvernement et au Parlement. Ils ont des représentants.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Baugouer qui était la technique, à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Kapi.